Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois l'écrivain S.C. Cosby, un auteur du sud des États-Unis, originaire de Virginie. C'est là d'ailleurs dans cet état clé de la guerre de sécession que l'auteur implante ses romans noirs. Le troisième, qui vient de paraître sous le titre « Le sang des innocents », dans une traduction de Pierre Césinner aux éditions Sonatine, prend à nouveau pour cadre cette Amérique rurale, encore marquée par les violences raciales. Une fiction portée par un personnage charismatique, un shérif noir, confronté à une série de meurtres dont de jeunes noirs sont la cible. Un état des lieux sans concession, où pourtant la puissance romanesque nous élève au-dessus d'un fait divers atroce. Une voix littéraire sans pareil, comme vous allez l'entendre tout de suite lors de cette rencontre avec S.C. Cosby. Bonjour S.C. Cosby.
Bonjour.
Dans votre nouveau roman, Le sang des innocents, votre personnage principal, Titus Crown, est un shérif. Et c'est le premier shérif noir de sa ville, Sharon, en Virginie, dans le sud des États-Unis, ce qui est présenté dans les premières pages comme un événement. Et il est vrai qu'à ce jour, seuls 5% des shérifs sont afro-américains à l'échelle de votre pays. Est-ce la raison pour laquelle vous avez justement choisi de mettre en scène un de ces rares hommes qui ont cette fonction ?
Yes, I believe it was interesting.
Je pensais que c'était intéressant de voir le point de vue d'un shérif afro-américain. Quand j'ai commencé à écrire le livre, on était à l'été qui suivait le meurtre de George Floyd. Et donc, ça m'intriguait beaucoup de comprendre ce que ça pouvait être d'être un policier noir ou un shérif noir à cette époque-là en Amérique ou juste avant ce meurtre. Et puis surtout, ce que je voulais analyser, c'était le rôle des forces de l'ordre et le système policier en Amérique. Ce livre a changé au fil du temps, au fil de l'écriture, parce que je me suis rendu compte que c'était un problème qui était très proche de moi et que je n'avais pas suffisamment de distance émotionnelle pour vraiment lui donner la charge et le questionner de la façon dont je voulais. Et donc, j'ai fait évoluer le livre pour que ça parle davantage d'un crime au sens traditionnel, d'une enquête, mais en utilisant ce crime pour parler des sujets qui m'intéressaient, les forces de l'ordre, la corruption, mais aussi l'extrémisme religieux et le racisme, qui a toujours fait partie de mon travail.
Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de shérifs noirs aux États-Unis, selon vous, S.C. Cosby ? Qu'est-ce que ça dit de ce pays ?
Que l'Amérique est toujours extrêmement raciste. Qu'une certaine partie de notre société n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir des hommes ou des femmes noires armés, avec un badge et avec un certain pouvoir sur cette société. On le voit, j'espère, dans le livre, quand Titus rencontre toutes sortes de problèmes avec des racistes, avec des personnes qui ont des mentalités étriquées. Mais il a aussi des problèmes au sein de sa propre communauté avec les Afro-Américains qui ne lui font pas confiance à cause du passif que suppose ce badge, à cause de l'histoire qu'elle porte. Et donc, ce qui est vrai dans le livre, pour moi, est vrai aussi pour la société américaine au sens large.
Et vous, S.C. Cosby, quel est votre lien avec les policiers ? Est-ce que ce sont des personnes en qui vous avez confiance ?
I trust some of them.
J'ai confiance en certains d'entre eux.
I don't trust all of them.
Je n'ai pas confiance en tous. J'essaie d'aborder chaque officier de police, chaque agent comme une personne, comme un individu. J'ai eu de mauvaises expériences avec des policiers. Il y a des années, quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ou 17 ans, avec mon ami qui venait de s'acheter une nouvelle voiture, une très belle voiture. On a été arrêté par la police, on nous a fait sortir du véhicule, on nous a fait nous allonger par terre, sur le ventre, il faisait très chaud, on était en plein mois de juillet. Ils nous ont insultés,
And so that was just one of many bad
experiences. Et ça fait partie des nombreuses mauvaises expériences que j'ai eues avec des policiers. Mais en grandissant, en devenant adulte, j'ai aussi rencontré des policiers qui n'étaient pas comme ça. J'ai rencontré des policiers qui ne se comportaient pas comme ça. Mais je pense qu'en Amérique, les forces de l'ordre ont tellement de pouvoir
que vous ne pouvez pas. There's a phrase in America.
Donc c'est difficile. That, il y a une expression en Amérique qui dit qu'il suffit d'une and pomme pourrie pour gâcher tout le lot.
I try to treat people
donc dans mon propre rapport à la police, j'essaie en tout cas d'aborder les gens de façon individuelle, de distinguer entre les personnes. Mais c'est vrai que j'ai eu une mauvaise expérience, donc je suis toujours extrêmement prudent face aux policiers. Je fais très attention.
Alors revenons à ce roman « Le sang des innocents » et à ce personnage Titus Crown, qui en effet, comme vous le disiez il y a un instant, S.A. Cosby est critiqué par les siens, qu'il accuse d'être un oncle Tom à la solde du système. Il y a tout un paradoxe, même sa propre communauté se méfie de lui. Alors on va le présenter en quelques mots, c'est un ancien agent du FBI, il a 36 ans, il est célibataire et il est revenu à Charon aussi pour s'occuper de son père. Sa mère est décédée, il n'a pas d'excellente relation avec son frère. Et détail important, le livre se déroule en 2017. Je me demandais pourquoi, S.A. Cosby, vous aviez eu besoin de dater cette intrigue à cette année précisément. À quoi correspond-elle, si ce n'est la première année du mandat de Donald Trump? Est-ce que c'est le cas?
Thank you for the question.
Merci because pour cette question.
In America, that time,
en Amérique,
that first year,
à cette époque-là, cette première année, tout était extrêmement changeant. Il y avait énormément de charges émotionnelles pour les gens, ceux qui étaient contents de voir Trump élu et ceux qui étaient très en colère. Je ne parle pas précisément de ça dans le livre, pas directement, mais je pense qu'en le lisant, on comprend ce qui se passe à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses dans l'atmosphère qui sont influencées par cette élection de Trump. Moi, je vis dans le sud de l'Amérique, en Virginie. Et la Virginie était la capitale de la Confédération, du mouvement des rebelles sudistes. Et donc j'ai grandi toute ma vie avec des gens qui avaient envie de réinventer cette période, de la faire revivre. Et donc enfant, parfois, je voyais des drapeaux confédérés. L'année où Trump a été candidat, jusqu'au moment où il a gagné, j'ai vu des centaines de drapeaux confédérés partout. J'ai vu énormément de monde réinventer, réimaginer cette période de l'histoire et utiliser ce drapeau pour montrer leur soutien à Trump. Ma mère, qui n'est plus là, était dans un fauteuil roulant. Elle était handicapée. Et mon frère et elle étaient dans un magasin. Et quelqu'un est venu la voir et a commencé à crier des insultes racistes absolument atroces. Mon frère n'était pas à côté d'elle à ce moment-là. Il la croyait seule, et donc il s'est mis à l'agresser. Et ma mère n'avait pas peur, c'était le genre de personne qui était tout à fait capable de se défendre. Mais ça n'était jamais arrivé de toute notre vie, alors qu'on a toujours été des citoyens africains-américains de la Virginie. Et je pense que c'est Trump qui avait autorisé ça, et mon frère est bien sûr revenu, a défendu ma mère. Mais en tant qu'écrivain, toute cette période-là est vraiment resté gravé dans mon esprit. Et il fallait que j'écrive quelque chose aussi pour essayer de gérer ce moment et de le comprendre. C'est pour ça que ce livre est une sorte de tentative pour trouver du sens là-dedans.
Donc je comprends bien que cette année 2017, elle est symptomatique de tout ce qui se passe dans le territoire et peut-être aussi dans cette ville. Et en effet, on est dans la tragédie. Parce que, en témoigne d'ailleurs le nom de la ville imaginaire, Charon, en français Charon, qui dans la mythologie grecque est le nom du passeur, de l'homme qui conduit la barque sur le Styx. C'est le symbole de la frontière entre la vie et la mort. Et ici, de mort, il va y en avoir beaucoup. Comme si, j'ai l'impression que c'est un peu entre les lignes, il y avait une malédiction qui pesait sur la communauté. Comme si des fantômes du passé hantaient le lieu. Est-ce que vous croyez, vous aussi, S.A. Cosby, au mauvais sort, ou c'est simplement la nature humaine qui est comme ça, partout, violente?
curses and
je pense que les malédictions, le mauvais sort, c'est un mélange entre de mauvais comportements et de mauvaises décisions des êtres humains. Là d'où je viens, en Virginie, il y a eu tellement d'endroits où les gens ont été réduits en esclavage dans les plantations. Quand on visite ces plantations qui ont été transformées en hôtels de luxe, en endroits où les gens viennent se marier, quand on visite ce genre d'endroit, moi, je sens toujours cette présence, comme s'il y avait des ombres, des fantômes qui planaient sur ces endroits. Pour moi, cette ville de Charon est vraiment une façon de représenter ça. En termes de malédiction, en tout cas, pour moi, je pense que c'est toujours 50% d'imaginaire et 50% de réalité.
Alors, avançons dans l'intrigue passionnante de ce roman « Le sang des innocents ». Titus Crown, dès le début du roman, est appelé suite à une mort violente dans un lycée. Un professeur a été tué d'un coup de feu par un de ses anciens étudiants. Et ce garçon, finalement, sera aussi abattu par un adjoint de Crown, un peu trop zélé. Sauf que vous retournez la situation très vite. Et on se rend compte que le gentil professeur, homme blanc de plus de 50 ans, n'est pas forcément une victime et que Latrell, son jeune assassin noir, n'est pas forcément l'homme qu'on imagine. Qu'est-ce qui vous intéresse ici, S.A. Cosby ? L'idée du secret, du masque, des apparences ?
Oui, je suis complètement fascinée par l'idée de l'identité, de qui on est. Il y a une phrase qui dit qu'on a tous un visage public, un visage privé, intime, et un visage vrai. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je trouve ça très juste. Je pense qu'on a tous des secrets et je pense qu'on joue tous un rôle en public, parfois. Et je pense qu'on est tous aussi très différents dans ce qu'on montre au public ou quand on est chez eux ou quand on est seul. Et c'est ça qui me fascine en termes de ressorts psychologiques, mais aussi comme question philosophique extrêmement profonde. Et pour moi, dans ce livre, ce qui était important, c'était de montrer que tout le monde a des secrets. Tout le monde porte un masque et le masque parfois tombe et on le remet aussi. Titus, donc, qui est le héros, le protagoniste, a un secret profondément enfoui et on va découvrir au fil du livre de quoi il s'agit.
Et en effet, S. Cosby, vous écrivez « On porte tous un masque, il y a le visage qu'on affiche en public, le visage qu'on montre en privé et enfin notre vrai visage ». Quel est votre vrai visage, vous, S. Cosby ?
J'aime croire que mon vrai visage est généreux, mais fort. J'aimerais croire qu'il est plein de compassion. En tant qu'homme, et en plus, je suis quelqu'un de costaud, je me suis rendu compte que ma mère, elle me le disait tout le temps, quand j'ai commencé à avoir des copines, ma mère me répétait « Sois gentille avec les filles, respecte-les, respecte leurs désirs et leurs limites. » Elle me disait toujours « N'intimide pas les gens, même si tu ne te rends pas compte que tu es en train de le faire. » Elle me disait aussi « Tu es un grand garçon, un garçon costaud. » Donc vraiment, essaie de comprendre ça. Et j'y ai beaucoup réfléchi. J'y réfléchis aussi dans mon travail d'écriture et dans ma vie personnelle. Je ne veux pas que les gens aient peur en ma présence. Je veux qu'ils se sentent en sécurité avec moi.
Alors, on va découvrir avec Crown qu'il existe des vidéos de plusieurs adolescents noirs, filles et garçons, qui ont été torturés et tués par un trio diabolique. Deux d'entre eux meurent, mais Titus cherche toujours le troisième, qui est sans doute une personne intégrée dans la communauté, apparemment inoffensive. Et de fait, j'ai deux questions pour vous, S. Cosby. La première, c'est un, vous ne décrivez jamais en détail les scènes d'horreur, et c'est tant mieux pour nous. Mais je me demande s'il y a quand même une raison en particulier. Et la deuxième question, c'est que Titus répète à ses équipiers que ce troisième homme n'est pas un monstre, mais un être humain. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous ne voulez pas diaboliser ce personnage en dépit des horreurs qu'il commet.
That's a great question.
C'est une très bonne question.
To answer your first question,
pour répondre à la première,
I wanted to give Titus
je voulais donner à Titus une mission.
How good a character he is,
je voulais montrer à quel point c'était un homme bon et à quel point le crime sur lequel il enquêtait était terrible.
Think about those things that were on the video.
Mais moi, je n'ai pas envie de réfléchir à ce qu'il y a sur les vidéos. J'ai envie que le lecteur puisse essayer d'imaginer. Mais je pense qu'il n'y a rien que je serais capable de décrire qui soit aussi terrible que ce que vous pouvez avoir dans la tête. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, de montrer. Quoi que vous imaginiez, ce sera le pire, la pire chose que vous puissiez imaginer. Moi, je ne peux pas rentrer en compétition avec ça et je n'ai pas envie, tout simplement, à titre personnel, d'écrire les scènes. Ce que j'ai envie, c'est que vous compreniez à quel point, à quel niveau d'horreur et de déviance il a à faire. Pour répondre à la deuxième question, en Amérique, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais en Amérique, on a tendance à avoir toute une mythologie des serial killers, des tueurs en série. On crée tout un personnage, une image presque héroïque de ces serial killers. Il y a eu le tueur du Zodiac en Amérique, par exemple, qui est devenu une espèce de figure pour toute une génération de gens. Quand j'étais enfant, il y a eu une série de meurtres à Atlanta, des meurtres d'enfants. Le livre a été influencé d'ailleurs par cette affaire. Et je me souviens, petit garçon, d'avoir posé des questions à ma mère pour comprendre à quelle distance était Atlanta de la Virginie pour savoir si j'étais en sécurité. Et je crois que ce qui se passe beaucoup souvent en Amérique, c'est que ce genre de meurtrier devient un monstre, une sorte de démon. Et quand j'ai eu l'occasion d'interviewer un ancien agent du FBI qui avait travaillé à l'époque, justement, à l'investigation, à l'enquête sur des meurtres de serial killers, et il m'avait dit, s'il te plaît, rends-moi service. Quand tu écriras ce livre, ne fais pas ton personnage un monstre, ne fais pas ton personnage un génie. Fais en sorte que ça reste un être humain, un homme, parce que la plupart des meurtriers ne sont que des hommes. Et c'est lui qui a inspiré cette phrase que je mets dans le livre en disant que les serial killers ne sont pas la plupart du temps des génies ou des cerveaux criminels particulièrement brillants. Ils sont seulement particulièrement audacieux et ils font des choses que nous, on n'oserait pas faire. Et j'utilise une version de cette phrase dans le livre. Pour moi, c'était important que Titus ait toujours ça en tête parce que c'était un ancien agent du FBI. Et je crois aussi que quand on fait de ces personnages un mythe, on leur donne ce qu'ils veulent. En fait, ils cherchent cette adulation. Et donc, pour Titus, c'est très important de ne pas lui donner ce qu'il veut.
Et j'irai même un peu plus loin en disant que non seulement dans chaque tueur, il y a un vrai être humain et que ce n'est pas qu'un monstre, mais aussi qu'il y a peut-être aussi en chaque bourreau un enfant qui a subi des sévices et qui reproduit le même schéma de violence. Mais je m'arrête là. Au cours du roman, il y a une manifestation et des gens qui chantent « We shall overcome ». C'est l'heure de la pause musicale. Est-ce que c'est un titre que vous aimeriez qu'on écoute, S. et Cosby, sachant que c'est un chant qui a été beaucoup utilisé dans les années 60 au moment des luttes civiques?
Back home.
Chez moi, dans les communautés afro-américaines, c'est une chanson qui est extrêmement puissante, qui veut dire beaucoup pour énormément de monde. Et le livre est tellement noir parfois que j'avais envie de donner un petit symbole qui montre au lecteur que les choses allaient bien tourner, que ça irait mieux, que Titus allait gagner, pour faire comprendre aux gens que même si le roman est extrêmement effrayant, tout va bien se terminer.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. We shall overcome.
afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, yes. Oh, deep in my heart,
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain S.A. Cosby, dont on peut lire en français un troisième roman qui vient de paraître aux éditions Sonatine sous le titre « Le sang des innocents » dans une traduction de Pierre Cécinaire. C'est une fiction, on l'a dit, qui se déroule en Virginie, dans le sud des États-Unis, sur fond de violence faite aux enfants noirs, de racisme, de corruption, bref, c'est le chaos. Et justement, Titus Crone, votre personnage principal, ce shérif noir aux prises avec une enquête éprouvante sur les traces de l'assassin de plusieurs adolescents, dit, ouvrez les guillemets, « du chaos émerge parfois une sorte d'ordre ». Fermez les guillemets. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, S.A. Cosby ? Est-ce que écrire permet de mettre un peu d'ordre dans notre monde chaotique ?
Oh yeah, yeah, definitely.
Oui, absolument.
You know, the world is so chaotic. The
le monde est so, tellement chaotique.
You know, entropy exists.
L'entropie
in so many parts of our lives.
Est présente so, dans tellement d'aspects de nos vies. Et donc, pour moi, écrire, c'est essayer de trouver du sens.
I mentioned earlier, my mom passed away a few years ago.
J'ai mentionné tout à l'heure que ma mère est morte il y a quelques années, en 2021, et une grande partie de ce livre est inspirée d'elle. Les souvenirs de Titus de sa propre mère aussi sont mes souvenirs, mais fictionalisés. Alors pour moi, c'était une manière de continuer à affronter ce deuil. Elle a énormément influencé ma vie, bien sûr, c'était ma mère. Mais aussi, elle a vraiment cru en moi en tant qu'écrivain, même quand j'étais tout petit. Ma toute première histoire, je l'ai écrite quand j'avais 7 ans. Je
ne
sais pas si ça se traduira bien, mais quand j'étais petit, ma mère me lisait des contes de fées le soir pour aller au lit, et elle me disait que je me plaignais tout le temps de ces histoires parce que je n'aimais pas les intrigues. Je trouvais que ce n'était pas logique, tout ça. En Amérique, il y a une histoire, celle des trois petits cochons. Et donc, il y a la maison de paille qu'ils construisent, et puis c'est la maison de bois, puis la maison de briques. Et moi, enfant, je demandais toujours, mais pourquoi ils n'ont pas fait la première maison en briques ? Et donc, ma mère a fini par me dire, bon, écoute, écris ta propre histoire et fais ce que tu veux avec. Et donc, j'ai fait ça, je lui ai écrit une histoire quand j'étais enfant. J'ai écrit une histoire de gnomes et d'elfes.
Et
il vivait dans son jardin. Et je me souviens qu'elle l'a lu. Et elle m'a demandé, mais t'as écrit ça tout seul ? Quelqu'un t'a aidé ? Je lui ai dit, non, je l'ai écrit tout seul. Et je me souviens de son regard, de son expression. Et je crois que je cherche encore à retrouver ce regard-là. C'est ce regard et cette expression que je veux voir sur le visage des lecteurs. Ma mère m'a énormément influencé et ce livre, je crois que c'était ma manière d'essayer de trouver du sens dans le fait de l'avoir perdu. Il y a une scène, je ne veux pas trop en révéler aux personnes qui ne l'ont pas lu, mais il y a une scène dans le livre qui est très personnelle pour moi. Parce qu'il y a des moments où j'aimerais bien entendre à nouveau sa voix.
Effectivement, et je le dis pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre, c'est aussi le roman de réconciliation entre Titus et son frère, et c'est aussi les retrouvailles entre les deux frères et leur père. Et en effet, peut-être qu'à un moment, la mère est encore là. Et ce que j'entends surtout dans ce que vous dites, S. E. Cosby, c'est que c'est de votre mère que vient le goût de la lecture, de l'écriture. Mais le roman noir en particulier, qui est un genre en soi, est-ce que c'est lié au fait, je l'ai lu, que vous travailliez jeune dans un funérarium? Est-ce que c'est au contact des morts que vous avez eu envie aussi de travailler sur des romans qui mettent en scène des morts?
Always liked noir.
Non, j'ai toujours aimé les romans noirs.
Jeune,
ma mère a beaucoup influencé ce que je lisais et elle lisait des biographies, des romans historiques. Mais on vivait avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle lisait des romances. Et mon oncle, lui, le frère de ma mère, lui, il lisait des romans noirs. Et la sœur de ma mère, qui habitait tout près, elle lisait des romans d'horreur. Donc, en fait, j'ai lu en permanence. Quand j'étais enfant, je lisais tout le temps. Et au départ, je voulais écrire de l'horreur. Je voulais être Stephen King. Mais personne n'a voulu de ces livres-là. Et je me suis toujours intéressée au polar, mais je ne pensais pas être capable d'en écrire, parce que je viens d'une toute petite ville. Et chez nous, en général, les crimes ne sont pas très difficiles à résoudre. Il n'y a jamais vraiment de question de savoir qui est le coupable. On sait tous qui est le coupable. La question, c'est est-ce que la police peut prouver les choses? Donc, je ne pensais pas pouvoir écrire des romans criminels en m'inspirant de ma ville natale. Mais il y a des auteurs américains. Il y en a en particulier Daniel Woodrell, qui est un auteur américain, qui a écrit un livre qui en anglais s'appelle Winner's Bone. Et je me souviens avoir lu ce livre et m'être dit, mais je comprends ces personnages, je viens de ce coin-là. Et donc si lui parvient à écrire comme ça, peut-être que moi aussi.
Dans Le sang des innocents, vous écrivez, ouvrez les guillemets, celui qui contrôlait le récit contrôlait la vérité, fermez les guillemets. Est-ce que ça veut dire que l'écrivain, c'est-à-dire vous, qui contrôle le récit par définition, contrôle aussi la vérité?
Oh yeah. Yeah, definitely.
I think, oui, absolument.
You know, the truth is
la vérité, dans le livre, et là où moi je la vois, là où je la place. Mais ce que j'espère, c'est que la vérité que j'évoque dans le livre est aussi une vérité universelle, que nous puissions tous comprendre. Mais je crois en ça. Je pense que les écrivains, nous utilisons les apparences pour essayer justement et l'imaginaire pour trouver la vérité. J'ai un tatouage qui dit ça. Et les meilleures œuvres, que ce soit en policier, polar ou en fiction générale, ce sont les œuvres qui nous rapprochent de la vérité et qui nous permettent de la recevoir en nous mettant à l'aise, en nous permettant. Quand j'écris, j'ai le sentiment de détenir une forme de vérité, mais j'ai envie de vous la présenter d'une façon qui vous permette de vous faire votre propre avis. Mais il y a aussi des choses qui, pour moi, relèvent de la vérité universelle. On a tous envie d'être aimés. On a tous, en tout cas j'espère, envie de se dresser contre la tyrannie, contre le mal. On a tous envie d'être heureux, et je crois qu'on a aussi envie que les autres le soient. Et c'est de ça dont je parle, le livre. Je crois que le polar, c'est un très bon outil pour parler de ces sujets. Je pense que le polar est très universel. J'aime dire que c'est en quelque sorte le gospel des âmes perdues. Tout le monde a déjà eu l'occasion que quelqu'un lui mente, et tout le monde a déjà menti à quelqu'un d'autre. Tout le monde comprend la souffrance et la violence. Et ce sont les bases du polar. Donc pour moi, c'est plus facile de parler de la condition humaine par le biais du polar, en utilisant justement, en ayant recours à ces vérités universelles.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce nouveau roman, Le sang des innocents, qui paraît aux éditions Sonatine, dans une traduction de Pierre Cécinaire. Et merci infiniment, évidemment, à Marguerite Capel, qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.